La faute de l'abbé Mouret. Chapitre 7. La matinée devenait brûlante. Dans ce vaste cirque de roches, le soleil allumait, dès le premier beau jour, un flamboiement de fournaises. L'abbé Mouret, à la hauteur de l'astre, comprit qu'il avait tout juste le temps de rentrer au presbytère s'il voulait être à 11 heures pour ne pas se faire gronder par la teuse. Son bréviaire lu, sa démarche auprès de Bambous faite, il s'en retournait à pas pressés, regardant au loin la tache grise de son église avec la haute barre noire que le grand cyprès, le solitaire, mettait sur le bleu de l'horizon. Il songeait dans l'assoupissement de la chaleur à la façon la plus riche possible dont il décorerait le soir la chapelle de la Vierge pour les exercices du mois de Marie. Le chemin allongeait devant lui un tapis de poussière doux aux pieds, une pureté d'une blancheur éclatante. À la Croix Verte, comme l'abbé allait traverser la route qui mène de Plansens à la Palue, un cabriolet qui descendait la rampe l'obligea à se garer derrière un tas de cailloux. Il coupait le carrefour lorsqu'une voix l'appela. « Hé, Serge ! Hé, mon garçon !» Le cabriolet s'était arrêté. Un homme se penchait. Alors, le jeune prêtre reconnut un de ses oncles, le docteur Pascal Rougeon, que le peuple de Plassans, où il soignait les pauvres gens pour rien, nommait « Monsieur Pascal », tout court. Bien qu'ayant à peine dépassé la cinquantaine, il était déjà d'un blanc de neige avec une grande barbe, de grands cheveux, au milieu desquels sa belle figure régulière prenait une finesse pleine de bonté. « C'est à cette heure-ci que tu patauges dans la poussière, toi » dit-il gaiement en se penchant davantage pour serrer les deux mains de l'abbé. « Tu n'as donc pas peur des coups de soleil ?»«
Mais pas plus que vous, mon oncle, » répondit le prêtre en riant.
« Oh, moi j'ai la capote de ma voiture, puis les malades n'attendent pas. On meurt par tous les temps, mon garçon. »
Et il lui conta qu'il courait chez le vieux Jean Bernat, l'intendant du Paradou, qu'un coup de sang avait frappé dans la nuit. Un voisin, un paysan qui se rendait au marché de Plassans, était venu le chercher. « Il doit être mort à l'heure qu'il est, continua-t-il. Enfin, il faut toujours voir. Ces vieux diables-là ont la vie joliment dure. »
Il leva le fouet lorsque l'abbé Mouret l'arrêta. « Attendez, quelle heure avez-vous, mon oncle ?»
11 heures moins un quart.
L'abbé hésita. Il entendait à ses oreilles la voix terrible de la teuse lui criant que le déjeuner allait être froid. Mais il fut brave. Il reprit aussitôt. « Je vais avec vous, mon oncle. Ce malheureux voudra peut-être se réconcilier avec Dieu à sa dernière heure. » Le docteur Pascal ne put retenir un éclat de rire.
« Lui, Jean Bernat » dit-il. « Ah bien, si tu le convertis jamais, celui-là !»
« Ça ne fait rien, viens toujours. Ta vue seule est capable de le guérir. »
Le prêtre monta. Le docteur, qui parut regretter sa plaisanterie, se montra très affectueux, tout en jetant au cheval de légers claquements de langue. Il regardait son neveu curieusement du coin de l'œil, de cet air aigu des savants qui prennent des notes. Il l'interrogea par petites phrases, avec bonhomie, sur sa vie, sur ses habitudes, sur le bonheur tranquille dont il jouissait aux arteaux. Et à chaque réponse satisfaisante, il murmurait, comme se parlant à lui-même d'un ton rassuré, « Allons, tant mieux, c'est parfait. » Il insista surtout sur l'état de santé du jeune curé. Celui-ci, étonné, lui assura qu'il se portait à merveille, qu'il n'avait ni vertige, ni nausée, ni maux de tête. « Parfait, parfait, » répétait l'oncle Pascal. « Au printemps, tu sais, le sang travaille, mais tu es solide, toi. À propos, j'ai vu ton frère Octave à Marseille le mois passé. » Il va partir pour Paris. Il aura là-bas une belle situation dans le haut commerce. Ah, le gaillard, il mène une jolie vie.
Quelle vie ? Demanda naïvement le prêtre. Le docteur, pour éviter de répondre, claqua de la langue, puis il reprit. Enfin, tout le monde se porte bien. Ta tante Félicité, ton oncle Rougeon et les autres. Ça n'empêche pas que nous ayons bon besoin de tes prières. Tu es le sein de la famille, mon brave. Je compte sur toi pour faire salut de toute la bande.
Il riait, mais avec tant d'amitié que Serge lui-même arriva à plaisanter. « C'est qu'il y en a dans le tas, continua-t-il, qu'ils ne seront pas aisés à mener en paradis. Tu entendrais de belles confessions s'ils venaient à tour de rôle. Moi, je n'ai pas besoin qu'ils se confessent. Je les suis de loin, j'ai leur dossier chez moi avec mes herbiers et mes notes de praticien. Un jour, je pourrai établir un tableau d'un fameux intérêt. On verra, on verra. » Il s'oubliait, pris d'un enthousiasme juvénile pour la science. Un coup d'œil jeté sur la soutane de son neveu l'arrêta net.
« Toi, tu es curé, » murmura-t-il.
« Tu as bien fait. On est très heureux, curé.
Ça t'a pris tout entier, n'est-ce pas? De façon que te voilà tourné au bien?
Va. Tu ne te serais jamais contenté ailleurs.
Tes parents, qui partaient comme toi, ont eu beau faire des vilenies. Ils sont encore à se satisfaire.
Tout est logique là-dedans, mon garçon. Un prêtre complète la famille. C'était forcé d'ailleurs. Notre sang devait aboutir là. Tant mieux pour toi. Tu as eu le plus de chance.
Mais il se reprit, souriant étrangement.
Non, c'est ta sœur Désirée qui a eu le plus de chance.
Il siffla, donna un coup de fouet, changea de conversation.
Le cabriolet, après avoir monté une côte assez roide, filait entre des gorges désolées. Puis il arriva sur un plateau dans un chemin creux longeant une haute muraille interminable. Les arteaux avaient disparu. On était en plein désert.
« Nous approchons, n'est-ce pas ?» demanda le prêtre.
« Voici le Paradou, » répondit le docteur en montrant la muraille. « Tu n'es donc point encore venu par ici ?»«
Nous ne sommes pas à une lieue des arteaux. Une propriété qui a dû être superbe, ce Paradou. »
La muraille du parc de ce côté a bien 2 kilomètres. Mais depuis plus de 100 ans, tout y pousse à l'aventure.
Il y a de beaux arbres, fit remarquer l'abbé en levant la tête, surpris des masses de verdure qui débordaient.
Oui, ce coin-là est très fertile. Aussi, le parc est-il une véritable forêt au milieu des roches pelées qui l'entourent.
D'ailleurs, c'est de là que le masque sort. On m'a parlé de 3 ou 4 sources, je crois.
Et en phrases hachées, coupées d'incidentes étrangères au sujet, il raconta l'histoire du Paradou, une sorte de légende qui courait le pays. Du temps de Louis XV, un seigneur y avait bâti un palais superbe avec des jardins immenses, des bassins, des eaux ruisselantes, des statues, tout un petit Versailles perdu dans les pierres sous le grand soleil du midi. Mais il n'y était venu passer qu'une saison en compagnie d'une femme adorable, belle, qui mourut là sans doute, car personne ne l'avait vu en sortir. L'année suivante, le château brûla, les portes du parc furent clouées. Les meurtrières des murs elles-mêmes s'emplirent de terre, si bien que depuis cette époque lointaine, pas un regard n'était entré dans ce vaste enclos qui tenait tout un des hauts plateaux des Garrigues.
« Les orties ne doivent pas manquer, » dit en riant l'abbé Mouret. « Ça sent l'humide tout le long de ce chemin, vous ne trouvez pas, mon oncle ?»
Puis, après un silence, « Et à qui appartient le Paradou maintenant ?» demanda-t-il.
« Ma foi, on ne sait pas, » répondit le docteur. « Le propriétaire est venu dans le pays il y a 20 ans. Mais il a été tellement effrayé par ce nid à couleuvres qu'il n'a plus reparu. Le vrai maître est le gardien de la propriété, ce vieil original de Jean Bernat qui a trouvé le moyen de se loger dans un pavillon dont les pierres tiennent encore. Tiens, tu vois cette masure grise là-bas, avec ses grandes fenêtres mangées de lierre ?»
Le cabriolet passa devant une grille seigneuriale, toute saignante de rouille, garnie à l'intérieur de planches maçonnées. Les seaux de loup étaient noirs de ronces.
À 100 mètres, le pavillon habité par Jean Bernat se trouvait enclavé dans le parc sur lequel une de ses façades donnait. Mais le gardien semblait avoir barricadé sa demeure de ce côté. Il avait défriché un étroit jardin sur la route. Il vivait là, au midi, tournant le dos au Paradou, sans paraître se douter de l'énormité des verdures débordant derrière lui. Le jeune prêtre sauta à terre, regardant curieusement, interrogeait le docteur qui se hâtait d'attacher le cheval à un anneau scellé dans le mur.
« Et ce vieillard vit seul, au fond de ce trou perdu » demanda-t-il.
« Oui, complètement seul, » répondit l'oncle Pascal. Puis il se reprit. « Il y a avec lui une nièce qui lui est tombée sur les bras. Une drôle de fille, une sauvage. »
Dépêchons, tout a l'air mort dans la maison.